Chapitre 2. Westminster Hall. À nouveau, un roi était assis, couronne en tête, sceptre en main, entouré de ses pairs. À nouveau, prélats, comtes et barons étaient alignés de part et d'autre de son trône. À nouveau, clercs, docteurs, juristes, conseillers, dignitaires s'offraient à sa vue en rang pressé. Mais ce n'était pas les lys de France qui semaient le manteau royal, c'étaient les lions des Plantagenets. Ce n'étaient point les voûtes du palais de la cité qui renvoyaient sur la foule l'écho de sa propre rumeur, mais l'admirable charpente de chêne aux immenses arcs ajourés du grand hall de Westminster. Et c'étaient 600 chevaliers anglais venus de tous les comtés, et les squires et les shérifs des villes qui constituaient, couvrant les larges dalles carrées, le Parlement d'Angleterre siégeant au complet. Pourtant, c'était afin d'écouter une voix française que cette assemblée avait été convoquée. Debout, drapé dans un manteau d'écarlate, à mi-hauteur des marches de pierre au fond du hall, et comme ourlé d'or par la lumière tombant derrière lui du gigantesque vitrail, le comte Robert d'Artois s'adressait aux délégués du peuple de Grande-Bretagne. Car pendant les 2 années écoulées depuis que Robert avait quitté les Flandres, la roue du destin avait accompli un bon quart de tour. Et d'abord, le pape était mort. Vers la fin de 1334, le petit vieillard exsangue qui, au cours d'un des plus longs règnes pontificaux, avait rendu à l'Église une administration forte et des finances prospères, était obligé du fond de son lit dans la chambre verte de son grand palais d'Avignon de renoncer publiquement aux seules thèses que son esprit eût défendues avec conviction. Pour éviter le schisme dont l'université de Paris le menaçait, pour obéir aux ordres de cette cour de France en faveur de laquelle il avait réglé tant d'affaires douteuses et gardé bouche close sur tant de secrets, il reniait ses écrits, ses prêches, ses encycliques. Maître Buridan dictait ce qu'il convenait de penser en matière de dogme. L'enfer existait, pleine d'âmes à rôtir, afin de mieux assurer aux princes de ce monde la dictature sur leurs sujets. Le paradis était ouvert comme une bonne hôtellerie, aux chevaliers loyaux qui avaient bien massacré pour le compte de leur roi, aux prélats dociles qui avaient bien béni les croisades, et sans qu'il soit, assez juste, besoin d'attendre le jugement dernier pour jouir de la vision béatifique de Dieu. Jean XXII était-il encore conscient quand il signa ce reniement forcé? Il mourait le lendemain. Il y eut d'assez méchants docteurs sur la montagne Sainte-Geneviève pour dire en se moquant « Il doit savoir à présent si l'enfer existe. » Alors le conclave s'était réuni, et dans un lacis d'embrouille qui menaçait de rendre cette élection plus longue encore que les précédentes. La France, l'Angleterre, l'empereur, le bouillant bohème, l'érudit roi de Naples, Majorque, Aragon et la noblesse romaine, et les Visconti de Milan et les républiques, toutes les puissances pesaient sur les cardinaux. Afin de gagner du temps et de ne faire avancer si peu que ce soit aucune candidature, ceux-ci, une fois enfermés, s'étaient tous tenus le même raisonnement. « Je vais voter pour l'un d'entre nous qui n'a nulle chance d'être élu. » L'inspiration divine a d'étranges détours. Les cardinaux étaient si bien d'accord in petto sur celui qui avait les moindres chances, sur celui qui ne pouvait pas être pape, que tous les bulletins sortirent avec le même nom. Celui de Jacques Fournier, le cardinal blanc comme on l'appelait, parce qu'il continuait de porter son habit de citeau. Les cardinaux, le peuple quand on lui fit l'annonce, et l'élu lui-même, se trouvèrent également stupéfaits. Le premier mot du nouveau pape fut pour déclarer à ses collègues que leur choix était tombé sur un âne. C'était trop de modestie. Benoît XII, l'élu par erreur, apparut bientôt comme un pape de paix. Il avait consacré ses premiers efforts à arrêter les luttes qui ensanglantaient l'Italie et rétablir, si cela se pouvait, la concorde entre le Saint-Siège et l'Empire. Or, cela se pouvait. Louis de Bavière avait répondu très favorablement aux avances d'Avignon, et l'on s'apprêtait à poursuivre quand Philippe de Valois était entré en fureur. Comment ? On se passait de lui, le premier monarque de la chrétienté, pour entamer des négociations si importantes ? Une influence autre que la sienne viendrait à s'exercer sur le Saint-Siège ? Son cher parent, le roi de Bohême, devrait renoncer à ses chevaleresques projets sur l'Italie ? Philippe VI avait intimé l'ordre à Benoît XII de rappeler ses ambassadeurs, d'arrêter les pourparlers, et ceci sous menace de confisquer aux cardinaux tous leurs biens en France. Puis, accompagné toujours du cher roi de Bohême, du roi de Navarre et d'une si nombreuse escorte de barons et de chevaliers qu'on eût dit déjà une armée, Philippe VI, au début de 1336, venait faire ses Pâques en Avignon. Il y avait donné rendez-vous au roi de Naples et au roi d'Aragon. C'était là manière de rappeler le nouveau pape à ses devoirs et de l'amener à bien comprendre ce qu'on attendait de lui. Or, Benoît XII allait montrer, par un tour de sa façon, qu'il n'était pas absolument l'âne qu'il prétendait être, et qu'un roi désireux d'entreprendre une croisade avait quelque intérêt à se ménager l'amitié du pape. Le Vendredi Saint, Benoît montait en chaire pour prêcher la souffrance de notre Seigneur et recommander le voyage de la croix. Pouvait-il faire moins quand 4 rois croisés et 2000 lances campaient autour de sa ville? Mais le dimanche de Quasimodo, Philippe VI, parti vers les côtes de Provence inspecter sa grande flotte, eut la surprise de recevoir une belle lettre en latin qui le relevait de son vœu et de ses serments. Puisque l'état de guerre continuait de régner entre les nations chrétiennes, le Saint-Père refusait de laisser s'éloigner vers les terres infidèles les meilleurs défenseurs de l'Église. La croisade des Valois s'arrêterait à Marseille. En vain le roi chevalier l'avait-il pris de haut, l'ancien cistercien l'avait pris de plus haut encore. Sa main qui bénissait pouvait aussi excommunier, et l'on imaginait mal une croisade excommuniée au départ. « Réglez, mon fils, vos différends avec l'Angleterre, vos difficultés avec les Flandres. Laissez-moi régler les difficultés avec l'empereur. Apportez-moi la preuve que bonne paix, bien certaine et durable, va régner sur nos pays, et vous pourrez ensuite aller convertir les infidèles aux vertus que vous aurez vous-même montrées. » Soit. Puisque le pape le lui imposait, Philippe allait régler ses différends. Et avec l'Angleterre d'abord, en remettant le jeune Édouard dans ses obligations de vassal et en lui enjoignant de livrer sans tarder ce félon de Robert d'Artois auquel il donnait asile. Les fausses grandes âmes, lorsqu'elles sont blessées, se cherchent ainsi de misérables revanches. Quand l'ordre d'extradition transmis par le sénéchal de Guyenne était parvenu à Londres, Robert avait déjà pris pied solidement à la cour d'Angleterre. Sa force, ses manières, sa faconde lui avaient attiré de nombreuses amitiés. Le vieux Torcol chantait ses louanges. Le jeune roi avait grand besoin d'un homme d'expérience qui connût bien les affaires de France. Or, qui donc en était mieux instruit que le comte d'Artois? Parce qu'il pouvait être utile, ses malheurs inspiraient la compassion. « Sire, mon cousin, avait-il dit à Édouard III, si vous jugez que ma présence en votre royaume vous doive créer ou péril ou nuisance, livrez-moi à la haine de Philippe, le roi mal trouvé. Je n'aurai point à me plaindre de vous qui m'avez fait si grande hospitalité. Je n'aurai à blâmer que moi-même pour ce que j'ai, contre le bon droit, donné le trône à ce méchant Philippe, au lieu de le faire octroyer à vous-même, que je ne connaissais pas assez. » Et cela était prononcé la main largement étalée sur le cœur et le buste ployé. Édouard III avait répondu calmement. « Mon cousin, vous êtes mon hôte, et vous m'êtes fort précieux par vos conseils. En vous livrant au roi de France, je serai l'ennemi de mon honneur autant que de mon intérêt. Et puis, vous êtes accueilli au royaume d'Angleterre et non pas en duché de Guyenne. Suzeraineté de France ici ne vaut pas. » La demande de Philippe VI fut laissée sans réponse. Et jour après jour, Robert put poursuivre son œuvre de persuasion. Il versait le poison de la tentation dans l'oreille d'Édouard ou celle de ses conseillers. Il entrait en disant « Je salue le vrai roi de France !» Il ne manquait pas une occasion de démontrer que la loi salique n'avait été qu'une invention de circonstances et que les droits d'Édouard à la couronne de Hugues Capet étaient les mieux fondés. À la seconde sommation qui lui fut faite de livrer Robert, Édouard III ne répondit autrement qu'en accordant à l'exilé la jouissance de 3 châteaux et 1200 marques de pension. C'était le temps d'ailleurs où Édouard témoignait sa gratitude à tous ceux qu'il avait bien servi, où il nommait son ami William Montagu comte de Salisbury et distribuait titres et rentes au jeune lord qu'il avait aidé dans l'affaire de Nottingham. Une troisième fois, Philippe VI envoya son grand maître des arbalétriers signifier au sénéchal de Guyenne, pour le roi d'Angleterre, qu'on eût à rendre Robert d'Artois, ennemi mortel du royaume de France, faute de quoi, à quinzaine échue, le duché serait séquestré. « J'attendais bien cela !» s'écria Robert. « Ce grand niais de Philippe n'a d'autre idée que de répéter ce que j'inventais naguère, cher sire Édouard, contre votre père. Donner un ordre qui offense le droit, puis séquestrer pour défaut d'exécution de cet ordre, et par le séquestre, imposer ou l'humiliation ou la guerre. Seulement aujourd'hui, l'Angleterre a un roi qui véritablement règne, et la France n'a plus Robert d'Artois. » Il n'ajoutait pas « Et naguère, il y avait en France un exilé qui jouait tout juste le rôle que je joue ici, et c'était Mortimer. » Robert avait réussi au-delà de ses espérances. Il devenait la cause même du conflit qu'il rêvait de voir éclater. Sa personne revêtait une importance capitale, et pour aborder ce conflit, il proposait sa doctrine : faire revendiquer par le roi d'Angleterre la couronne de France. Voilà pourquoi, ce jour de septembre 1337, sur les degrés de Westminster Hall, Robert d'Artois, manche déployée et pareil à un oiseau d'orage, devant les nervures du grand vitrail, s'adressait sur la demande du roi au Parlement britannique. Entraîné par 30 ans de procédure, il parlait sans documents ni notes. Ceux des délégués qui n'entendaient pas parfaitement le français prenaient de leurs voisins la traduction de certains passages. À mesure que le comte d'Artois développait son discours, les silences se faisaient plus denses dans l'assemblée, ou bien les murmures plus intenses quand quelques révélations frappaient les esprits. Que de choses surprenantes! Deux peuples vivent, séparés seulement par un étroit bras de mer. Les princes des deux cours se marient entre eux. Les barons d'ici ont des terres là-bas. Les marchands circulent d'une nation à l'autre, et l'on ne sait rien, au fond, de ce qui se passe chez le voisin. Ainsi, la règle « France ne peut à femme être remise, ni par femme être transmise » n'était nullement tirée des anciennes coutumes. C'était juste trouvaille d'humeur lancée par un vieux rabâcheur de connétables lors de la succession 20 ans plus tôt d'un roi assassiné. Oui, Louis Xe le Hutin avait été assassiné. Robert d'Artois le proclamait et nommait sa meurtrière. « Je la connaissais bien !» Elle était ma tante et m'a volé mon héritage. L'histoire des crimes commis par les princes français, le récit des scandales de la cour capétienne, Robert s'en servait pour épicer son discours, et les députés au Parlement d'Angleterre en frémissaient d'indignation et d'effroi, comme s'ils tenaient pour rien les horreurs accomplies sur leur propre sol et par leur propre prince. Et Robert poursuivait sa démonstration, défendant les thèses exactement inverses à celles qu'il avait soutenues naguère en faveur de Philippe de Valois et avec une égale conviction. Donc, à la mort du roi Charles IV, dernier fils de Philippe le Bel, et si même on avait voulu tenir compte de la répugnance des barons français à voir femme régner, la couronne de France devait, en toute équité, revenir à travers la reine Isabelle au seul mâle de la lignée directe. L'immense manteau rouge pivota devant les yeux des Anglais, tout saisi. Robert s'était tourné vers le roi. D'un coup, il se laissa tomber, le genou sur la pierre. « Revenir à vous, noble sire Édouard, roi d'Angleterre, en qui je reconnais et salue le véritable roi de France !» On n'avait pas ressenti émotion plus intense depuis le mariage d'York. On annonçait aux Anglais que leur souverain pouvait prétendre à un royaume plus grand du double, plus riche du triple. C'était comme si la fortune de chacun, la dignité de chacun, s'en trouvait augmentée d'autant. Mais Robert savait qu'il ne faut pas laisser s'épuiser l'enthousiasme des foules. Déjà, il se relevait et rappelait qu'au moment de la succession de Charles IV, le roi Édouard avait envoyé, pour faire valoir ses droits, de hauts et respectés évêques, dont Monseigneur Adam Orleton, qui aurait pu en témoigner de vive voix s'il n'eût été présentement en Avignon à ce même propos et pour obtenir l'appui du pape. Et son propre rôle, à lui, Robert, dans la désignation de Philippe de Valois, devait-il le passer sous silence? Rien n'avait mieux servi le géant tout au long de sa vie que la fausse franchise. Ce jour-là, il en usa encore. Qui donc avait refusé d'entendre les docteurs anglais? Qui avait repoussé leurs prétentions? Qui les avait empêchés de faire valoir leurs raisons devant les barons de France? Robert, de ses deux énormes poings, se frappa la poitrine. « Moi, mes nobles lords et sires, moi qui suis devant vous, qui, croyant agir pour le bien et la paix, ai choisi l'injuste plutôt que le juste, et qui n'ai pas assez expié cette faute par tous les malheurs qui me sont advenus. » Sa voix, répercutée par les charpentes, roulait jusqu'au bout du hall. Pouvait-il apporter à sa thèse un argument plus probant? Il s'accusait d'avoir fait élire Philippe VI contre le bon droit. Il plaidait coupable, mais présentait sa défense. Philippe de Valois, avant d'être roi, lui avait promis que toutes choses seraient remises en ordre équitable, qu'une paix définitive serait établie, laissant au roi d'Angleterre la jouissance de toute la Guyenne, qu'en Flandre, des libertés seraient consenties qui rendraient prospérité au commerce, et qu'à lui-même, l'Artois serait restitué. Donc c'était dans un but de conciliation et pour le bonheur général que Robert avait agi de la sorte. Mais il était bien prouvé que l'on ne doit se fonder que sur le droit et non sur les fallacieuses promesses des hommes, puisqu'au jour présent, l'héritier d'Artois était un proscrit, la Flandre affamée et la Guyenne menacée de séquestre. Alors, si l'on devait aller à la guerre, que ce ne soit plus pour vaines querelles, dommages liges ou non liges, de seigneuries réservées ou de définition des termes de vassalité, que ce soit pour le vrai, le grand, l'unique motif, la possession de la couronne de France. Et du jour où le roi d'Angleterre l'aurait sainte, alors il n'y aurait plus ni en Guyenne ni en Flandre de motif à la discorde. Les alliés ne manqueraient pas en Europe, princes et peuples tous ensemble. Et si pour ce faire, pour servir cette grande aventure qui allait changer le sort des nations, le noble Sire Édouard avait besoin de sang, Robert d'Artois, tendant les bras hors de ses manches de velours au roi, au lord, aux communes, à l'Angleterre, offrait le sien.